Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Lucas Lazoberti-Bourdon, réalisée par Benjamin Huy et mise en onde ce matin par Swad Boukorsa. Suite de notre série consacrée aux 10 ans du printemps arabe, après avoir évoqué la Tunisie, le pays qui avait ouvert la voie au mouvement populaire dans la région, et puis hier, à la manière dont l'armée a conservé la main sur le pouvoir du côté de l'Égypte et le Soudan, place ce matin à ces pays où on est passé d'une situation de révolte populaire à des guerres civiles sous influence étrangère, direction la Libye, mais surtout la Syrie.
Le front sur lequel nous nous battons actuellement n'est pas un front où l'armée syrienne serait en guerre contre son peuple. Beaucoup de gens sont d'accord avec cela. La guerre actuelle en Syrie est en fait celle de l'islam contre les non-croyants, celle du bien contre le mal. Et nous sommes du bon côté parce que le guide suprême de l'Iran est de notre côté. Ce combat est défendu par le guide suprême, Hassan Nasrallah, les moudjahidines irakiens et afghans. L'autre camp est soutenu par Israël, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pays européens, les États-Unis, et il est financé par de l'argent venu des Émirats.
Témoignage d'un commandant iranien qui, en 2013, expliquait les raisons de sa présence du côté de la Syrie au micro de la BBC. C'est l'une des premières preuves, sinon la première, de la présence de combattants iraniens en Syrie. De tous les pays qui virent l'éclosion des mouvements pro-démocratie sur le territoire en 2011, la Syrie et la Libye apparaissent aujourd'hui comme les théâtres les plus dramatiques. Avec des centaines de milliers de victimes, des millions de réfugiés, des destructions d'une ampleur inédite, la Syrie a été particulièrement éprouvée par la guerre civile, la brutalité de la répression du régime de Bachar el-Assad et les exactions des djihadistes. En Libye, malgré la chute de Muammar Kadhafi, le pays apparaît plus divisé que jamais entre le gouvernement de Tripoli à l'est et les forces du maréchal Haftar à l'ouest. Mais surtout, en Syrie comme en Libye, les guerres qui s'y déroulent ont la même particularité. Elles sont alimentées par des forces étrangères qui, peu à peu, ont pris part au conflit. Iran, Russie, Turquie, Émirats Arabes Unis, France, Grande-Bretagne, États-Unis, nombreux sont les acteurs impliqués de façon plus ou moins directe. Alors comment en est-on arrivé là? Comment passe-t-on d'une situation d'insurrection populaire à un conflit régional, voire international? Et comment se fait-il que, 10 ans après, on ne soit toujours pas sorti de cette situation? Y aurait-il quelque chose d'inexorable dans cette proportion à s'immiscer dans la vie politique de la région? Qu'est-ce qui rend les États de cette région aussi perméables à l'influence extérieure? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Henri Laurence. D'abord, bonjour Henri Laurence.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, auteur de très nombreux ouvrages. Je citerai notamment Les Crises d'Orient, en 2 volumes, qui étaient parus chez Fayard. Avec nous également Gilles Doron-Soro, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1. Parmi les ouvrages que vous avez écrits, je vais citer l'un des plus récents en date que vous avez coécrit avec Adam Bachko et Arthur Kenney, Syrie, anatomie d'une guerre civile aux éditions du CNRS. Si on regarde la carte du printemps arabe de 2011, Henri Laurence, les 3 pays qui sont encore plongés dans des conflits armés profonds sont des pays qui subissent des ingérences étrangères. Syrie, Libye, Yémen. Tous les autres pays ont fermé cette parenthèse ouverte à l'époque d'une façon ou d'une autre. Alors soit en prenant le chemin de la démocratie, même si tout n'est pas parfait avec la Tunisie, soit avec le retour au pouvoir de l'armée, comme on en parlait hier s'agissant de l'Égypte, soit avec des formes de normalisation, là aussi je mets des guillemets, mais en tout cas une forme d'essoufflement des contestations. Est-ce que cette permanence, Henri Laurence, de la guerre, de la conflictualité, est à mettre sur le compte d'ingérence extérieure, ou finalement il y a peut-être des considérations politiques, culturelles, historiques propres à ces pays, Henri Laurence?
Ben, surtout, ça fait plus de 2 siècles, voire presque 2 siècles et demi, que cette région du monde qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient est en quelque sorte le lieu de projection de toutes les lignes de combat de forces internationales dans le monde. Dès la fin des 18e siècle, on peut dire que cet espace fait partie de l'espace géopolitique européen. Et tout au long du 19e siècle, vous aviez des luttes de puissance la France du côté de l'Égypte, l'Angleterre du côté de l'Empire ottoman, ou alors dans un niveau plus micro, les Français soutenant les Maronites, les Britanniques, les Druzes, et de génération en génération, cette malédiction se perpétue, et les crises actuelles depuis 2011 s'inscrivent dans cette longue série d'implications et d'ingérences étrangères.
Oui, une grande forme de continuité, là c'est évidemment l'historien qui parle. Gilles de Ronsoro, si on resserre un tout petit peu la focale et qu'on regarde sur cette décennie qui vient de passer, est-ce que les guerres civiles aujourd'hui en Syrie et en Libye sont justement le fait de ces influences étrangères, ou est-ce que c'est l'inverse? Regardons, c'est toujours la question de l'œuf et de la poule, est-ce que c'est l'influence étrangère au fond qui permet cette situation de guerre civile desquelles on n'arrive pas à sortir, ou est-ce que c'est l'inverse?
La première remarque, c'est que très factuellement, si vous regardez la chronologie, s'il n'y a pas d'intervention extérieure, il n'y a pas de guerre civile. Pourquoi ? Parce que le rapport de force entre les protestataires et le gouvernement central est tel que ça aurait conduit à une répression sanglante. Hein. Bon, le régime syrien, le régime libyen sont des régimes connus pour leur violence. Et donc, on aurait eu simplement un peu ce qui s'est passé en Syrie dans les années 80, des massacres, une série de massacres, éventuellement avec intervention de l'armée, mais on n'aurait pas eu de guerre civile au sens où, voilà, il n'y aurait pas eu un éclatement politique du pays. Donc je crois que c'est pas un phénomène spécifique à la Libye et à la Syrie, hein, c'est l'ensemble des conflits contemporains, en fait, ne se déclenche véritablement que quand il y a une intervention des voisins, des partis transnationaux, etc. Mmh. Donc on peut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait spontanément penser, une guerre civile, c'est d'abord une guerre où il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur.
Mmh. On pourrait formuler l'hypothèse, Henri Laurence, que cette ingérence étrangère, elle est d'autant plus forte que l'État est faible. Ça semble assez naturel. Mais essayons peut-être de regarder s'il n'y a pas des limites à tout cela. Parce que, par exemple, concernant la Syrie, on avait en réalité un État qui était assez fort. On avait un parti basque qui était extrêmement bien implanté sur le territoire, avec une unité nationale forte, malgré la mosaïque ethnique et confessionnelle. Alors, pour ce qui est de la Libye, peut-être que l'identité nationale était moins prégnante, mais et qu'elle reposait au fond davantage sur l'autoritarisme de Kadhafi et l'appareil sécuritaire qu'il avait construit autour de lui. Mais est-ce que l'exposition à l'ingérence étrangère d'un pays est forcément corrélée à la faiblesse de son État ?
Ben, disons pas à la faiblesse de son État, mais plutôt à l'homogénéité de la société. La société égyptienne est une société relativement homogène, et donc la guerre civile était entre guillemets plus difficile. Ici, vous avez une société qui se divise à la fois en groupes confessionnels et en groupes tribaux, et avec le mélange des deux. Alors, j'ajouterais par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que les guerres civiles, ce sont d'abord des guerres de milices, et que les milices, pour exister, doivent continuer la guerre, et pour continuer la guerre, elles ont besoin en effet de soutiens étrangers.
Oui, ça c'est une des choses qu'on remarque et en Libye et en Syrie, Gilles de Ronsoro, c'est que pour avoir cette mécanique de l'internationalisation des conflits, on n'a pas seulement des acteurs étatiques. Dans le cas de la Syrie, on a Daesh qui appose son agenda sunnite radical, on a des Kurdes qui jouent leur carte contre le pouvoir central, contre les pouvoirs centraux d'ailleurs, parce que c'est évidemment un mouvement transnational. On a des milices pro-chiites, alors qu'ils sont soutenus par Téhéran, mais qui ne sont pas des acteurs étatiques à proprement parler. Mais est-ce que ça veut dire que justement ces acteurs non étatiques sont indispensables à cette mécanique de l'internationalisation des conflits?
Bon, alors, la situation est un peu compliquée, parce que si vous n'avez pas de guerre civile en Égypte, de mon point de vue, c'est parce que vous n'avez pas d'intervention extérieure. Hein. Je ne crois pas que, essentiellement, en tout cas le cas de la Syrie et la Libye irait plutôt dans ce sens-là, je ne crois pas essentiellement que une diversité ethnique quelconque, au départ, soit nécessairement... implique nécessairement un risque de guerre civile supérieur. En tout cas, les études un peu statistiques, un peu lourdes sur ces questions montrent plutôt qu'il n'y a pas de corrélation très 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 claire. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans les deux cas, on a des mouvements qui sont des mouvements inorganisés, C'est-à-dire c'est de l'auto-création sociale, hein. Les gens se regroupent dans des quartiers, etc. De temps en temps, il y a un peu des bases tribales, mais c'est pas très très clair. Et à partir de là, effectivement, ils construisent des groupes armés. Ces groupes armés, évidemment, pour construire un groupe armé, il faut quelque chose de l'extérieur. Hein. Cette réaction sociale par le bas, elle se fait de manière ultra brutale, ultra rapide. Et finalement, la contestation de l'État, elle se fait dans ce mouvement-là. Alors, ce qui veut dire que la caractérisation, par exemple, de la Syrie comme un État fort, ça me paraît très discutable. Ce qu'on voit à partir du courant des années 2000, c'est qu'il y a une néolibéralisation de la Syrie. Et donc, on se rend compte qu'il y a un effondrement de l'administration locale, des forces de police. On avait fait ça quand on avait travaillé avec Arthur et Adam. On avait regardé un peu dans les quartiers d'Alep, est-ce qu'il y avait des commissariats. Ben, il n'y a pas de commissariat, parce que c'est des quartiers nouvellement construits, etc. Donc je crois que c'est pas tant la diversité, c'est le rapport de l'État et la violence de l'État par rapport à la population. Et dans le cas de Kadhafi, c'était une stratégie délibérée qui n'est pas d'institution étatique. Donc voilà, à mon avis, c'est plutôt comme ça qu'il faut caler le problème.
Ouais. Alors, sur la violence de l'État, justement, Henri Laurence, au Moyen-Orient, on a beaucoup ce discours, ce récit selon lequel il faut un État fort et surtout un dirigeant fort pour s'opposer à l'ingérence étrangère. Est-ce que cette idée-là résiste elle aussi à l'épreuve des faits, à l'épreuve de l'histoire? Plus un régime est autoritaire et plus il est hermétique à l'influence extérieure, Henri Laurence?
C'était la doctrine de Nasser. Nasser a expliqué d'ailleurs en public que s'il n'y avait pas de pluralisme politique après la révolution de 1952, c'était parce que toute force politique égyptienne indépendante serait en quelque sorte financée de l'extérieur et reproduirait les jeux d'influence externes. Et il en avait une vision d'autant plus concrète que lui-même manipulait le jeu politique là où il y avait un système ouvert, comme en Syrie ou au Liban, dans les années 50. Et l'une des théorisations de la dictature était justement que la dictature mettait fin aux ingérences étrangères. Et si on prend la Syrie sur la longue durée, ce qu'on appelle après Patrick Seale le struggle for Syria, la lutte pour la Syrie, faisait que, disons, depuis l'indépendance de l'après-guerre jusqu'aux années 60, la Syrie était d'abord un enjeu entre les forces régionales et internationales, avec des tas de coups d'État organisés de l'extérieur. Mais à partir du renforcement syrien 1970, la Syrie devenait un acteur et non plus un enjeu, et c'est elle qui manipulait à l'extérieur, par exemple au Liban, les forces politiques.
Gilles Dorosoro, les premières mobilisations du côté de la Syrie, elles s'organisent autour de revendications social, mais aussi très local. On est dans cette région de Deraa, qui a subi des sécheresses à répétition, qui a subi un effondrement de la production du blé. On a des augmentations du pain, du prix du pain à la clé, qui alimentent la colère. Bref, on a des considérations très sociales et très locales. À partir de quand ce conflit-là va basculer dans autre chose, dans une guerre régionale? Où vous situez-vous le point de bascule, Gilles Dorosoro?
Alors en fait, ce qui est fascinant dans le cas syrien, c'est que vous avez un refus très très rapide vers les premières semaines des manifestations de se cantonner à des questions matérielles. Hein. Il y a un refus des groupes manifestants qui sont totalement pacifiques. Hein, ça, je pense que c'est essentiel de le dire. Ils sont pacifiques et ils sont assez ouverts. Un peu toutes les identités. Enfin, c'est pas quelque chose de très, voilà, c'est pas un mouvement sunnite dur, etc. Et ce qu'on voit, c'est que il y a un refus de la population, malgré les offres du régime de Damas, il y a un refus de la population de se limiter à des questions matérielles. Ce que les gens veulent, en fait, c'est de la reconnaissance, c'est une ouverture du processus politique, c'est de la dignité. Et cet élément, aussi surprenant qu'il puisse paraître, c'est ça qui va quelque part amené à une dynamique proprement révolutionnaire, parce que c'est la chose où le régime ne veut pas lâcher. Le régime était prêt à lâcher, visiblement, sur des questions matérielles, évidemment, puisque la néolibéralisation du système faisait qu'il y avait une explosion de la pauvreté, des inégalités sociales en Syrie, hein, à partir des années 2000. Voilà. Bon, et donc, le régime était prêt à lâcher. Il était prêt à lâcher pour survivre. Et là, il y a eu un refus, justement, de la population de rentrer dans cette logique. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un affrontement. Alors d'un côté, il est pacifique, mais c'est un affrontement politique de plus en plus dur. Et ça va, à un moment donné, donner des groupes d'autodéfense des manifestants. Hein. Donc à partir de 2012, c'est réglé. On est dans une logique de guerre civile, c'est une logique d'affrontement militaire. Et c'est simplement l'aide extérieure, et notamment l'ouverture de la frontière, qui est un élément clé, hein, l'ouverture de la frontière turque, hein, et la frontière jordanienne, enfin libanaise aussi, mais c'est d'abord la frontière turque, qui vont permettre l'acheminement d'un certain nombre d'armes, etc. Et c'est là qu'on rentre dans la guerre civile.
Oui, et puis il y a aussi, pour le coup, un moment aussi où les acteurs étatiques vont s'introduire dans ce conflit-là. Je voudrais qu'on parle de la Russie, Henri Laurence, mais avant de le faire, je vous propose d'écouter Vladimir Poutine. Il s'exprimait dans un discours de clôture du G20, on est en septembre 2013, et il s'exprime à l'époque sur la situation syrienne. Écoutez.
Au Moyen-Orient, il s'est produit beaucoup de choses. Et cela a des répercussions sur l'économie mondiale, car c'est de là que vient la plus grande partie de notre énergie. Lorsqu'il y a des désastres, des affrontements au Moyen-Orient, les prix d'énergie augmentent. Hier, nous avons passé toute la soirée à évoquer la Syrie. Et à 2h30 du matin, j'ai eu un entretien bilatéral avec M. Cameron, qui m'a déclaré que cette division entre moitié-moitié était importante, mais c'est pas tout à fait vrai. L'Arabie saoudite, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, etc. sont en faveur d'une intervention militaire. La Russie, la Chine, l'Inde et l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Italie, tous ces pays se sont exprimés contre une intervention militaire en Syrie.
Voilà, en étant septembre 2013, Vladimir Poutine défend alors la non-intervention, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, on va avoir des choses qui vont totalement se renverser, c'est-à-dire le camp qu'il décrivait comme favorable à l'intervention ne va pas intervenir, alors même que les non-interventionnistes, en tout cas la Russie, elle va intervenir, Henri Laurence, puisque en septembre 2015 notamment, Moscou, on s'en souvient, envoie son armée pour venir au secours du régime de Bachar al-Assad qui est en perdition. Pour quelle raison il change d'avis? Est-ce que ce sont les conditions du conflit qui ont changé, qui l'y ont poussé? Et de façon plus générale, qu'est-ce que Poutine est allé faire en Syrie, Henri Laurence?
Il veut surtout, me semble-t-il, rappeler que la Russie est une grande puissance, ou en tout cas une puissance mondiale, qui ne correspond pas nécessairement à son rang économique. C'est la vieille histoire de la puissance pauvre. Et cette région est considérée traditionnellement par la Russie comme faisant partie de son environnement régional. Historiquement, c'est le cas depuis 2 siècles et demi, à peu près, puisque les premières présences militaires russes dans le Proche-Orient, c'est les années 1770. Et il y a des intérêts stratégiques régionaux. La relation entre l'islam à l'intérieur de la Fédération de Russie et l'extérieur, la relation avec l'Iran et la volonté de jouer un rôle international fort dans une zone qui est relativement proche de la Russie.
Gilles de Ronsoro, je vous repose la question, qu'est-ce que Poutine est allé faire en Syrie? Parce que des réponses, il y en a plein. Il y a évidemment des intérêts à avancer ses pions dans la région pour avoir une assise géostratégique plus forte. Il y a soutenir tout simplement un ami, un allié de longue date. Et puis il y a autre chose. Et alors là, je prends le livre que vous aviez coécrit avec Adam Bachko et Arthur Kenney et je lis page 186. En réalité, dites-vous, la Russie défend d'abord le principe de non-intervention. C'est cela que fait Poutine, c'est-à-dire on défend la non-ingérence en intervenant, Gilles de Ronsoro. C'est la priorité pour Poutine, pour vous?
Alors exactement, c'est le problème de l'intervention. L'intervention doit être précisée. Ce que défend Poutine, c'est l'idée qu'on ne peut pas intervenir contre un gouvernement en place, quoi que fasse ce gouvernement en place. C'est-à-dire même s'il massacre sa population, même en cas de génocide, même dans tous les cas, le système international doit respecter les souverainetés étatiques. Voilà. Et c'est évidemment en réaction contre la politique américaine à partir de la première guerre du Golfe, enfin la chute du mur, qui est, voilà, quand il y a un massacre dans un pays, on fait une intervention internationale. Et là, la ligne poutinienne, elle est très très claire, et c'est pour ça qu'elle est assez cohérente aussi avec celle de la Chine, avec un certain nombre de pays, qui disent, d'ailleurs qui se vendent comme ça d'ailleurs dans leur politique extérieure, nous on n'interviendra pas chez vous.
Oui, mais alors elle est cohérente jusqu'elle est cohérente, Gilles de Rossereau, jusqu'au moment où vous intervenez et où patatras, c'est plus du tout cohérent. Oui.
Si, parce que ils interviennent auprès du gouvernement. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire que les Russes, ils sont pas contre intervenir. À l'appel de Bachar al-Assad. Ouais. Et il faut quand même le préciser aussi, c'est les Américains qui ont fait rentrer les Russes dans le jeu. Ça, il faut jamais l'oublier, parce qu'en fait, à partir de septembre 2013, quand les Américains refusent de sanctionner les bombardements chimiques sur la population civile, voilà, et finalement, la ligne rouge qu'avait posée Obama un an avant, elle tombe. À partir de ce moment-là, les Américains décident finalement de laisser tomber l'insurrection syrienne. C'est une politique délibérée. Maintenant, on le sait, puisqu'il y a eu des mémoires des acteurs qui sont sortis. Cette politique délibérée, elle passe par un passage de relais aux Russes. Si vous voulez vous en occuper, vous rentrez. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Et donc ce qui se passe ensuite dans les années suivantes, c'est-à-dire toute la remontée du régime vers le nord, avec l'aviation russe qui bombarde les hôpitaux, etc., tout ça, c'est en fait une conséquence assez directe du feu vert américain. Je veux dire, c'est important de le dire, parce que sinon on a l'impression que les Russes ont poussé des coudes pour rentrer dans le conflit syrien. Non, c'est les Américains qui leur ont laissé la place.
Alors on va revenir justement sur le rôle des États-Unis, mais restons un instant sur la Russie, Henri Laurence, parce qu'on considère souvent, c'est en tout cas ce qu'on entend très régulièrement, que ce sont les Occidentaux qui ont été les premiers à pratiquer l'ingérence dans la région. Mais vous dites à propos de la Russie qu'elle a été historiquement pionnière en matière d'interventionnisme. Et vous remontez même à 1770, moment où on assiste à l'entrée d'une flotte russe en Méditerranée orientale. Vous nous racontez ce moment, ce qui est pour vous, en tout cas, un acte fondateur de cet interventionnisme au Moyen-Orient. Henri Laurence.
Une nouvelle guerre russo-ottomane et une flotte russe une de la Baltique entre en Méditerranée. Elle détruit à la bataille de Chesmé la flotte ottomane. Et elle va rester pendant 4 ans en Méditerranée orientale. Alors, pour rester, elle a besoin de ravitaillement. Et donc, elle va s'allier avec ce qu'on appelle le régime néo-mamelouk en Égypte et avec des insurgés grecs orthodoxes en Syrie. Et dans le Péloponnèse, ce qu'on appelle à l'époque la Morée. Et on voit donc que la présence militaire russe s'appuie sur des forces locales qui elles-mêmes sont en opposition aux forces centralistes ottomanes. Et vous aurez en fait une flotte russe à travers tout le XVIIIe siècle jusqu'à 1815 avec des interruptions quand les Russes quittent à ce moment-là militairement la Méditerranée. Mais ils reviennent en 1830. Ça fait partie de l'environnement régional. De la Russie. C'est pas le Mozambique, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en réalité, à l'époque, cet interventionnisme, il ne se fait pas à l'appel du pouvoir politique central, mais il s'appuie sur des forces insurgées. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est pas du tout dans la ligne de ce qu'on voit aujourd'hui, Gilles de Rossereau, quand même.
Mais le renversement, enfin l'idée qu'on ne peut pas, on peut pas briser la souveraineté d'un pays quoi qu'il se passe à l'intérieur.
Il se fait quand ?
C'est clairement quand vous avez la chute du mur et la perte d'une grande partie de l'espace géostratégique russe, enfin soviéto-russe quoi. Et à partir de ce moment-là, ce qui est extrêmement fascinant d'ailleurs, c'est que les Russes interviennent dans des conflits, non pas pour les régler, mais pour les perpétuer et, en ce sens, perpétuer la nécessité de leur présence. Hein. Vous regardez tout l'espace post-soviétique, c'est ce qu'ils font. À chaque fois, c'est des techniques de division, ils s'installent, alors c'est des forces d'interposition ou c'est des garants. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas de pacifier, c'est pas de régler. Alors, dans le cas de la
c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui, Gilles Dorensoro. Finalement, l'objectif, c'est celui-ci, c'est de rester, pas forcément de régler le conflit, mais de rester.
Alors, c'est compliqué parce que je pense que il y a eu une vraie tentative russe de monter, de liquider, de finir la guerre et de monter jusqu'à la frontière turque. Le problème, c'est que ça s'est heurté à des intérêts turcs qui se sont très brutalement exprimés par une intervention à l'intérieur de la Syrie. Hein, donc voilà, il y a eu une installation et là on est à la constitution d'une zone d'influence turque à l'intérieur de la Syrie. Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément aussi, c'est qu'on se rend compte que, contrairement à ce que beaucoup avaient expliqué, Bachar el-Assad, c'est pas bien, mais c'est l'État, qu'il n'y a pas d'État syrien. Il n'y a plus d'État syrien fonctionnel. Donc, en fait, les Russes, à la fois, ils ont peut-être un projet de rester, etc., mais surtout, ils sont confrontés à un effondrement de l'État syrien.
Oui, et aujourd'hui, au fond, c'est eux qui administrent le pays.
Non, c'est quand même plutôt le duo Hezbollah, Irano-Hezbollah, quoi, qui est vraiment la force un peu structurante. Hein. On oublie trop que derrière, en fait, que les premiers à intervenir, ce sont pas les Russes, mais ce sont les gens du Hezbollah, les forces armées du Hezbollah, avec l'appui iranien. C'est eux qui stoppent la chute du régime en mars 2013. Hein. C'est là que le point de retournement, il est plutôt là.
C'est pour ça qu'on l'avait choisi pour ouvrir justement l'émission d'aujourd'hui tout à l'heure. Ça vous aura pas échappé.
C'est un plaisir d'entendre des personnes.
Henri Laurence, Gilles Dorensoro nous disait tout à l'heure, on ne peut pas parler de la Russie sans parler des États-Unis, parce qu'effectivement, l'interposition de la Russie, elle a aussi été rendue possible par le désengagement américain. Faut se rappeler que quand Obama dit explicitement que l'utilisation d'armes chimiques, c'est la ligne rouge à ne pas franchir, sans quoi il déclenche une intervention, il faut se souvenir qu'il s'est ravisé. Alors, soit après la signature d'un accord arraché par les Russes qui organisait le démantèlement de l'armement chimique syrien, dont on sait qu'en réalité il n'aura pas eu lieu, mais en tout cas pas tout à fait, pas entièrement. Dans ce cadre-là, Henri Laurence, quelle responsabilité pour les États-Unis dans le désastre syrien d'aujourd'hui, 10 ans après?
Disons que on peut rien faire avec les Américains, mais on peut rien faire sans les Américains non plus. Enfin, c'est la position.
Et quoi qu'il fasse, on les critique.
Absolument. La volonté générale des dernières administrations américaines, c'est de se retirer le plus possible du Proche-Orient, et parce qu'il y a une montée des tensions vers la Chine, et en quelque sorte, les États-Unis ne sont plus en position de contenir à la fois la Chine d'un côté et se maintenir dans ces conflits interminables et interminables et qu'on ne peut pas terminer au Moyen-Orient. Donc, aussi bien Obama que M. Trump voulaient diminuer la présence américaine dans la région. Mais ils n'y arrivent pas. Parce que à chaque fois qu'ils veulent se retirer, il y a quelque chose qui se produit, qui les rappelle. Dans le cas précis de ces dernières années, c'est l'apparition de l'État islamique qui les a forcés à revenir en Irak et à se pointer en Syrie, ce qu'ils ne voulaient pas au départ.
Gilles Dorensoro, quelle responsabilité pour les États-Unis? Et j'entends effectivement Henri Laurence qui nous dit que de toute façon, qu'ils interviennent ou qu'ils n'interviennent pas, tout était d'une certaine manière un mauvais choix. Mais est-ce que celui-ci n'est pas le pire de tous? Et est-ce qu'il n'y avait pas une position intermédiaire qui permettait, sans envoyer de troupes au sol, d'avoir un contrôle d'une partie du ciel pour éviter le désastre et pour éviter aussi l'intervention de la Russie qui, quand même, a aussi été un moment décisif. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu cette intervention russe. Peut-être que le régime de Bachar el-Assad, à ce moment-là, serait tombé. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même... Il n'y a pas eu un manquement, là. Le service minimum n'a pas été assuré, quoi.
Ah non, c'est un désastre. Je suis pas particulièrement anti-américain, et surtout pas à titre culturel en tout cas, mais c'est une série de désastres. C'est-à-dire que la politique afghane, je viens de terminer un livre justement sur la politique afghane des États-Unis, c'est un désastre. C'est-à-dire que à chaque fois, on a une espèce de réaction mécanique contre la politique qui a été menée avant. c'est-à-dire une série de réactions, c'est-à-dire surengagement en Afghanistan, puis on se retire sans rien préparer, ce que ça, on se retrouve avec une vraie catastrophe stratégique en Afghanistan. La Syrie, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait des solutions techniques, faciles, pour stabiliser un peu la situation. Alors, très concrètement, une no-fly zone, ce qui en bon français doit se dire par une interdiction, une zone d'interdiction aérienne, dans le nord de la Syrie, ça stabilisait les populations, ça évitait les massacres, ça évitait les bombardements qui visent les civils, ça évitait aussi des millions de réfugiés qui sont arrivés en Turquie et en Europe. Et là, c'est qu'on voit que la définition des intérêts stratégiques américains, elle est strictement nationale. Et les intérêts européens n'ont pas du tout été pris en compte. Donc il y avait des solutions techniques. Il y avait aussi la solution un peu brutale de bombarder tous les aéroports syriens, et ça aurait cassé la capacité offensive du régime. Il y avait énormément de solutions techniques. Le problème n'a jamais été la solution technique. Et là, on se retrouve devant quelle situation ? Les Américains se retirent à partir de 2013, se retirent du jeu. L'État islamique arrive, alors que dès 2013, on avait écrit à ce propos-là, dès 2013, il est clair qu'il y a des mouvements radicaux qui sont en train de s'implanter et qui liquident progressivement les mouvements modérés, les vrais révolutionnaires, en fait. Et les Américains laissent faire jusqu'au point où l'État islamique devient une force centrale en Syrie. Et là, ils sont obligés d'intervenir. Et ils interviennent avec les Kurdes. Ce qui amène à la situation actuelle, qui est une situation extrêmement complexe, où vous avez des Américains qui patronnent des Kurdes dans le cadre d'une lutte contre l'État islamique, vous avez la Turquie qui patronne des djihadistes en principe déradicalisés sur Idlib, et vous avez les Russes qui soutiennent un régime totalement décomposé, régime de bande armée plutôt à Damas. Voilà. Donc voilà ce que produit la situation américaine. Alors si vous êtes dans une logique générale de contre-terrorisme, on peut considérer que c'est difficile de faire pire.
Henri Laurence, désastre stratégique, série de désastres même, nous dit Gilles de Ronsoro. Projetons-nous un tout petit peu vers l'avenir, parce que on va avoir un nouveau président du côté de la Maison Blanche. Alors, on le disait tout à l'heure, en réalité, même si les styles étaient très différents, mais du côté de Trump et du côté d'Obama, la politique au Moyen-Orient, la politique américaine au Moyen-Orient n'était pas radicalement différente. Est-ce qu'on peut attendre des évolutions avec l'arrivée de Joe Biden dans la politique américaine au Moyen-Orient, Henri Laurence? Je crois que vous préparez un travail sur ce point.
Bon, disons que simplement que à chaque fois qu'une nouvelle administration américaine arrive, on fait les prédictions par rapport à ce qu'ils ont pu dire auparavant, et puis en général les événements conduisent à que ce soit tout à fait autrement. Mais là, il faut reprendre les logiques régionales. On est resté un peu trop micro. Il faut prendre plus large la politique américaine. Elle était en face de ce qu'on peut appeler une contre-révolution arabe menée par l'Arabie saoudite et par les Émirats, qui avaient deux adversaires. D'un côté, dans le monde sunnite, les islamistes style frères musulmans, et de l'autre côté, l'Iran. Et assez clairement, l'administration Trump était assaignée avec cette contre-révolution arabe qui était prêt à céder du côté d'Israël, comme on l'a vu dernièrement. L'administration Biden, c'est trop tôt pour en parler, mais dans les discours qui sont actuellement tenus, elle tient plutôt à prendre des distances par rapport à l'Arabie saoudite et aux Émirats, ce qui peut dire expliquer un peu la réconciliation entre le Qatar et le reste des pays du Golfe dans la configuration actuelle. Mais ça, c'est une configuration, tout peut changer dans 3 mois ou dans 6 mois.
Gilles de Ronsoro, votre avis, est-ce que ça peut changer avec Biden ou on va rester dans la triste continuité de ces désastres à répétition ?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'une grande partie de l'équipe de Biden, en fait, c'est des anciens d'Obama. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils auront la même politique, mais en tout cas, ça, c'est factuellement, on sait qu'il est en train de récupérer énormément de gens de l'administration Obama. Bon. La deuxième chose qu'on sait, c'est que la politique de Trump a créé des effets cliqués. Sur Israël, par exemple, les Américains vont pas redéménager leur ambassade, enfin des choses comme ça. Ce qui s'est passé, c'est passé. La relation avec l'Iran, par exemple, ne reviendra pas, très probablement, aux accords qui avaient été passés sous l'administration Obama. Donc on sait qu'il y a une série d'effets cliqués, comme ça. Moi, ce que je vois...
Mais sur la Syrie, est-ce que vous pensez que Joe Biden pourrait essayer de reprendre la main? Parce qu'il va y avoir un problème, c'est que il faut avoir des leviers pour agir sur un conflit, en particulier comme un conflit comme celui-ci. Il semble que les États-Unis en aient plus du tout aujourd'hui.
Alors, ils ont 1000 hommes sur place et la position américaine est claire. Si les Turcs attaquent, nous, on part. Donc, ils s'opposeront pas à une offensive turque. Donc, voilà, ça, c'est un peu le jeu tel qu'il est réellement là, dit par les officiels américains. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire véritablement? Essentiellement, ils peuvent continuer une politique de stabilisation des zones qui sont en fait des zones PKK, enfin, la branche locale, le PYD. Ils peuvent continuer à stabiliser ces zones. Je pense pas qu'ils puissent faire beaucoup plus. Pourquoi? Ou à moins sur un plan diplomatique, mais sur le terrain, les gens qui tiennent vraiment le terrain, ça se passe quelque part entre les Russes et les Turcs. Et c'est la politique turque est absolument déterminante en Syrie aujourd'hui. Enfin, je veux dire, s'il y a un acteur qui est central, c'est le seul acteur qui a une marge d'action stratégique aujourd'hui en Syrie. C'est les Turcs et c'est pas les Américains. Je pense que c'est important de le dire.
Henri Laurence, il y a un ensemble dont on n'a pas encore parlé, pas beaucoup en tout cas, c'est les Européens. Et pourtant, ils se sont montrés particulièrement actifs, ces Européens, et en particulier la France, dans la chute du régime libyen. On se souvient comment Paris et Londres ont été décisifs dans la chute de Muammar Kadhafi. Alors bien sûr, ils n'étaient pas les seuls, il y avait le soutien des Américains, il y avait la participation de bien d'autres pays. Mais enfin, ils ont été... très interventionniste sur ce coup-là. Comment, 10 ans plus tard... Alors, il y a toujours deux manières de voir les choses, c'est-à-dire qu'on peut considérer que ça a été une erreur terrible au regard de ce qu'il se passe aujourd'hui en Libye et de la trajectoire sur la précédente décennie. Et en même temps, il faut se souvenir qu'on était dans une situation extrêmement difficile, une situation d'urgence humanitaire qui peut-être justifiait cette intervention à l'époque. Comment vous jugez-vous, 10 ans plus tard, cette intervention occidentale et européenne quand même, en particulier qui a fait tomber Muammar Kadhafi. Et puis peut-être après, je vous demanderai un petit exercice de politique fiction pour vous demander ce qui aurait pu se passer si nous n'avions pas fait tomber Kadhafi. Je sais que les historiens détestent ce genre d'exercice, Terran et Laurence.
Ce qu'on peut expliquer, c'est le syndrome de Srebrenica. Il faut se rappeler qu'avant 2011, on était co-responsable quelque part de génocide ou d'actes de génocide qui avaient été commis dans les Balkans durant l'effondrement de la Yougoslavie. Et à ce moment-là, on parlait de droit d'ingérence, de défense des populations, de protection des populations. Et réellement, l'intervention de 2011, en dehors de calculs économiques et politiques qui avait pu avoir lieu, était aussi s'articuler sur cette nécessité d'ingérence ou de protection des populations contre laquelle la Russie s'est dressée, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Alors, l'état de décomposition de la société libyenne est aussi lié au régime même de Kadhafi, qui justement ne voulait pas construire une société homogène.
Gilles Doronceau, réaction avant d'accueillir une nouvelle invitée pour parler du Yémen aussi. Gilles Doronceau.
Sur la même question, moi j'ai tendance à... c'est une question à la fois de position morale et puis aussi de vision à long terme. Moi j'ai tendance à penser que la chute de Kadhafi, c'est une bonne chose pour c'est une bonne chose pour la Libye, c'est une bonne chose, même s'il y a eu effectivement des effets pervers, notamment, on le dit pas assez, mais l'envoi d'armes et de mercenaires sur le sud, sur le pays du sud, au Mali, ça s'est retrouvé notamment. Mais je pense que fondamentalement, oui. C'est-à-dire que la chute de Kadhafi était positive. La gestion ensuite, et notamment le fait qu'il n'y a pas eu une coalition internationale forte pour assurer le service après vente, j'ose dire. Ça, c'est ça le problème. Mais c'est comme en Syrie, je veux dire. L'idée que la Syrie, c'était un régime stable et qu'il fallait garder absolument Bachar, on voit à quoi ça conduit aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont des régimes qui sont prônes aux révolutions.
Ouais, voilà. L'erreur, ça a été finalement de ne pas avoir pensé le coup d'après. Et c'est exactement ce qu'avait dit Barack Obama dans ses mémoires. Il avait dit d'ailleurs regretter précisément de ne pas avoir pensé ce coup d'après, après l'intervention et après la chute de Kadhafi. On est avec vous, Gilles de Ronceau, et vous, Henri Laurence, dans cette série consacrée aux 10 ans du printemps arabe, de la Syrie à la Libye, ces guerres civiles sous influence étrangère. Il y a un pays dont on n'a pas encore parlé, c'est le Yémen. On en parle tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le principal objectif de cette opération est d'aider le peuple yéménite à se débarrasser des rebelles houthis qui portent atteinte aux intérêts du peuple yéménite et menacent les intérêts des pays voisins. Pour le moment, il n'y a aucun projet d'intervention militaire des troupes au sol. Mais lorsqu'il sera nécessaire, les forces terrestres saoudiennes sont prêtes, ainsi que les forces de nos pays amis. Nous affronterons toute attaque.
Voilà, nous sommes en mars 2015. L'Arabie Saoudite, à la tête d'une coalition rassemblant une dizaine de pays arabes, vient de lancer l'opération militaire Tempête décisive au Yémen. Objectif, mater la rébellion qui vient de chasser le président Abd Rabo Mansour Hadi du pays et qui menace de prendre le pouvoir. 4 ans après les manifestations qui, dans le sillage des printemps arabes, ont provoqué la chute du président Salé, le pays se retrouve au cœur d'un conflit régional entre ses puissants voisins. L'Arabie Saoudite et ses alliés d'un côté, l'Iran de l'autre, les deux camps s'appuyant sur des forces locale. 2021, le constat est amer, c'est le moins qu'on puisse dire. La guerre s'est enlisée, le conflit dure toujours. Quel bilan de l'intervention militaire de l'Arabie Saoudite et des Émirats au Yémen? On en parle avec Emma Soubrier, qui est politologue, qui est chercheuse associée à l'université Clermont-Auvergne, qui est chercheuse invitée à l'Arab Gulf States Institute de Washington. Elle nous rappelle, pour commencer, les raisons avancées par Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, pour justifier son intervention militaire au Yémen. Elle est au micro de Mélanie Chalandon.
La coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite à l'origine intervient au Yémen à partir de mars 2015 dans les clous de la légalité internationale à plusieurs titres. Le premier est de rétablir à sa demande le pouvoir du président Hadi, dont la légitimité est nommément appuyée par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'autre objectif pour cela est de repousser l'avancée des Houthis, qui occupe la capitale Sanaa, ainsi qu'Aden, qui est l'ancienne capitale du Sud. Et il cherche également, par là, à endiguer l'influence de l'Iran, dont les Houthis sont vus peu ou prou comme une marionnette. Donc l'Arabie Saoudite voit l'avancée des Houthis au Yémen comme une menace directe à sa frontière sud par son grand rival iranien.
Parmi les membres de la coalition menée par l'Arabie Saoudite, on trouve bien sûr les Émirats Arabes Unis du prince héritier Mohamed Ben Zayed. Quelles sont les raisons là de l'engagement des Émirats et quels sont les bénéfices escomptés par Mohamed Ben Zayed de cette intervention militaire au Yémen?
Alors, les Émirats Arabes Unis, ils sont dans la coalition qui est menée par l'Arabie Saoudite, selon les mêmes titres officiels que je viens de rappeler. Mais on voit rapidement que les deux puissances du Golfe ne concentrent pas exactement leurs efforts sur les mêmes objectifs et d'ailleurs sur les mêmes zones au sein du Yémen. Donc, tandis que les deux conduisent des frappes contre les Houthis, en particulier dans le nord du pays, les Émirats, eux, envoient également des troupes au sol, en particulier dans le sud du pays, pour mener des opérations antiterroristes. Il est important de rappeler que pendant les 3 années qui précèdent, donc de 2012 à 2015, il y avait effectivement une multiplication d'attentats conduits par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, mais également Daesh, notamment dans le sud du Yémen. Donc en particulier sur l'action des Émirats, ils cherchent vraisemblablement à consolider leur crédibilité militaire et antiterroriste à travers cet engagement au Yémen. Et le Yémen pourrait également être intégré dans leur stratégie d'influence régionale, qui passe par la clientélisation de nouveaux acteurs et potentiellement à terme l'implantation d'un des ports au sud du Yémen.
Emma Soubrier, à l'été 2019, les Émirats Arabes Unis ont officiellement annoncé leur retrait du terrain, en tout cas leur retrait militaire du terrain yéménite. Est-ce qu'il faut y voir un abandon de leur part de l'alliance avec l'Arabie Saoudite, ou bien est-ce que finalement c'est un engagement qui continue mais sous d'autres formes?
Ma compréhension de la posture émirienne est, indépendamment de leurs objectifs et de leur vision parfois divergente de l'Arabie Saoudite, il a été absolument important pour eux de ne pas se désolidariser de l'Arabie Saoudite. Donc je ne verrai pas leur retrait comme une volonté officielle de mettre l'Arabie Saoudite en défaut. Par ailleurs, ce retrait est annoncé à l'été 2019, mais en réalité, ils étaient en retrait depuis bien plus longtemps, notamment dans la province où se trouve Hodeïda. Et ce que je dirais, c'est que cette posture, elle reflète en réalité un point important de la stratégie émirienne, qui est de chercher de plus en plus à appuyer les forces compatibles avec ses intérêts, mais à distance ou en arrière-plan, plutôt qu'en première ligne, comme elle le fait au début de l'intervention. Dès 2017, en réalité, on voit cette posture plus en retrait des Émirats, qui s'explique en partie par une nécessité de ménager la population émirienne dans un contexte qui est défini par la limite de leurs moyens humains.
Est-ce qu'il faut en déduire que sur le plan militaire, l'engagement des Émirats Arabes Unis qui avait, vous l'avez rappelé quand même, pour objectif, entre autres, de faire aussi une démonstration de force dans la région, une démonstration de leur capacité et de leur fiabilité militaire. Et est-ce que donc leur retrait signifie aussi que cette opération était quand même plutôt un échec militairement au Yémen ?
Je dirais que à partir du moment où l'Arabie Saoudite et les Émirats s'engagent au Yémen, il y avait deux possibilités. Soit il y avait une victoire décisive sur la base de leurs objectifs, notamment celui de repousser les Houthis. À cet égard, on peut clairement parler d'un échec. Néanmoins, je relativiserais dans le cas des Émirats, puisque justement, comme je le mentionnais, l'autre objectif des Émirats était également de mener certaines opérations antiterroristes, où là, pour le coup, ils ont bel et bien fait leurs preuves. Il y a notamment une opération qui a lieu à l'été 2015, une opération amphibie qui a reçu une approbation internationale. Et donc, je dirais que les Émirats peuvent, relativement par rapport à l'Arabie Saoudite, sans sortir la tête haute ou plus haute, puisque l'épreuve du feu que la guerre au Yémen a représentée pour leurs forces armées a été ponctuée par certaines victoires ici et là dont ils peuvent se targuer.
Quelles sont les portes de sortie aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite qui manifeste depuis quelques années déjà son intention, son envie de se sortir de ce qu'on appelle le bourbier yéménite? Et est-ce que le fait que les États-Unis ont récemment inscrit les houthistes sur leur liste noire des groupes terroristes est une manière d'apporter un soutien à l'Arabie Saoudite qui va l'aider d'une manière ou d'une autre à sortir de cette guerre?
Avant la désignation par l'administration Trump des Houthis comme groupe terroriste, j'aurais dit que les portes de sortie qui s'ouvraient à l'Arabie Saoudite étaient une victoire marginale militaire, y compris vraiment une toute petite victoire dont ils puissent se servir comme narratif pour pouvoir sortir du bourbier, ou un accord réciproque de non-agression, un cessez-le-feu qui soit vraiment tenu par tous les acteurs en partie, donc notamment les Houthis. En réalité, l'Arabie Saoudite désignait déjà les Houthis comme groupe terroriste. Et alors qu'on pourrait considérer que il s'agit d'un cadeau à l'Arabie Saoudite de la part de l'actuelle, pendant encore quelques jours, administration américaine, je dirais qu'en réalité, il s'agit d'un cadeau empoisonné, puisque ça risque de compliquer toute résolution politique si une des parties est désignée, y compris par les États-Unis, comme groupe terroriste. Mais premièrement, l'administration Trump, a priori, n'annonce pas cette désignation pour aider l'Arabie Saoudite, bien davantage pour continuer de savonner la planche à l'administration Biden qui arrive. Après, je rappellerai aussi qu'il s'agit d'une désignation par les États-Unis. Les États-Unis désignent aussi l'Iran comme principal soutien au terrorisme à l'international. Et donc, je pense qu'il sera important, là, à la suite de cette désignation, de voir aussi comment réagissent les partenaires européens et d'autres grandes puissances internationales. Puisque si les États-Unis sont seuls à désigner les Houthis comme organisation terroriste, ça pourrait ne pas avoir de conséquences trop dramatiques et trop immédiates. Voilà.
Dernière question, Emma Soubrier. Quelle est la responsabilité à vos yeux de la communauté internationale et notamment de l'ONU dans la légitimation qui a été donnée à l'Arabie Saoudite dans cette opération au Yémen, puisque comme vous le rappeliez, l'Arabie Saoudite agit dans un cadre légal et international, mais le conflit néanmoins en plusieurs années s'est largement détérioré et responsable d'une grave crise humanitaire. Voilà, est-ce que avec un peu de recul aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez cette la responsabilité des organisations internationales?
Oui, tout à fait. Comme vous le notez, la singularité de ce qui se passe aujourd'hui au Yémen et depuis 2015, c'est qu'en dépit des nombreuses critiques légitimes des actions militaires de l'Arabie Saoudite et des Émirats et des dommages collatéraux qu'elles ont causés, c'est que cette intervention, par son bornage originel, bénéficie jusqu'à ce jour de facto du soutien de la légalité internationale. Et donc, la coalition arabe qui était menée par l'Arabie Saoudite depuis 2015, par exemple, elle bénéficie de la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui représente un appui nominal à la légitimité du gouvernement Hadi et qui exige des miliciens houthis qui mettent fin à la violence dans le pays et qu'ils retirent de leurs forces de toutes les zones dont ils ont pris le contrôle, y compris la capitale Sanaa, dont ils n'ont d'ailleurs toujours pas bougé, et, je cite, « s'abstiennent de toute provocation ou menace envers les États voisins ». Donc cette résolution 2216, elle permet jusqu'à ce jour de mettre un coup de projecteur sur les Houthis, comme s'ils étaient un peu les acteurs principaux, voire les seuls acteurs qui ont besoin de mettre fin à la violence dans le pays. Ça met énormément de responsabilités sur les Houthis, ce qui en soi complique certaines résolutions politiques. Et ça continue d'appuyer, 6 ans plus tard, le légitime gouvernement Hadi.
Merci beaucoup à Emma Soubrier. Emma Soubrier qui était au micro de Mélanie Chalandon, qui est politologue, chercheuse associée à l'Université Clermont-Auvergne et chercheuse invitée à l'Arab Gulf States Institute de Washington. Merci à nos deux invités qui nous ont éclairés sur cette situation syrienne et libyenne, Henri Laurence et Gilles Doron-Soro. Je rappellerai l'un et l'autre certains de vos ouvrages, notamment Henri Laurence vous concernant les crises d'Orient, 2 volumes, reparus chez Fayard, mais aussi peut-être votre participation à un ouvrage collectif dirigé par Bertrand Madi et Dominique Vidal, Le Moyen-Orient et le Monde, l'État du Monde 2021. Vous y avez participé, c'est à la découverte. Gilles Doron-Soro, co-auteur, je le disais tout à l'heure, avec Adam Bachko et Arthur Kenney, de Syrie, anatomie d'une guerre civile, qui elle aussi a été réédité, des ouvrages qui m'ont été bien utiles pour préparer cette émission du jour. Avec cette très belle musique d'un groupe libanais dont on vous mettra là aussi la référence sur la page de Culture Monde, qu'on ferme cette page sur les 10 ans des printemps arabes, mais c'est en attendant demain, puisqu'on y reviendra évidemment, et d'ailleurs on parlera aussi du Liban. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Dans une semaine, Donald Trump aura quitté la Maison Blanche. Enfin, ça c'est pour la théorie, hein, Brice.
De son plein gré ou expulser Manu Militari.
Exactement.
Nul ne sait quel nouveau coup d'éclat il pourrait imaginer d'ici l'installation de Joe Biden afin de marquer les esprits et de continuer à fasciner ses supporters. Mais cela peut être difficilement pire que l'invasion du Capitole par une foule décidée à refuser le résultat des élections. Certains, comme Nouriel Roubini, préviennent. Des activistes se tiennent prêts à provoquer de nouveaux troubles. Ne pas oublier le message de Trump à ses supporters « Stand back and stand by ». Restez en retrait et tenez-vous prêts. Ces trublions, dont certains sont armés, peuvent compter sur le soutien intéressé de tous les ennemis des États-Unis. Des campagnes de désinformation, des cyberattaques contre les institutions en transition sont très probables. Et Roubini va jusqu'à imaginer une attaque de dernière minute contre l'Iran, histoire de provoquer un chaos bien dans la manière de Trump. C'est pour fermer la porte à un tel scénario digne du docteur Folamour que Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a eu les discussions nécessaires avec le chef d'état-major des armées. Trump, qui rêve de se représenter dans 4 ans, fera tout pour éviter une destitution. Et le vice-président Mike Pence l'a d'ailleurs écarté. Comme l'écrit Richard Haass, Donald Trump laissera une trace dans l'histoire, car le monde sera différent après son départ, en pire. Haass trace un bilan équilibré de l'action du président sortant. Dans la colonne des succès, car il y en a, des taux de croissance remarquables, obtenus notamment par la baisse de l'impôt sur les sociétés. Le fait d'avoir tenu la dragée haute à Pékin et d'avoir marqué des points dans les relations sino-américaines, d'avoir fourni des armes défensives à l'Ukraine agressée et en partie occupée par la Russie. La normalisation des rapports entre Israël et plusieurs États arabes.
Mais Brice, du côté des échecs, la liste est longue pour Richard Haass.
Oui, le pire, avoir durablement endommagé l'image des États-Unis dans le monde en menaçant le processus électoral. Après d'incessantes transgressions de l'ordre institutionnel et des mises en cause de l'autorité de la justice. Sur l'épidémie du Covid-19, les réponses ont été ineptes. Et le paradoxe, c'est que Trump a minimisé pendant des mois la gravité de l'épidémie parce qu'il craignait que le confinement provoque la chute de l'activité économique, alors que c'est justement la lenteur et l'inefficacité de la riposte de son administration qui a causé l'échec électoral. L'épidémie aura provoqué la mort de 400 000 Américains au moment de la passation des pouvoirs. Et même si on peut créditer cette administration d'avoir accéléré la mise au point d'un vaccin, l'objectif qu'elle s'était fixé, qui était de vacciner 20 millions d'Américains avant le 1er janvier de cette année, est loin d'être atteint aujourd'hui, où on compte péniblement 6 millions de vaccinés sur une population de 332 millions d'Américains. Mais l'échec le plus cuisant, c'est en politique étrangère. Malgré les cajoleries prodiguées au dictateur nord-coréen, Pyongyang poursuit, tout récemment encore, sa course aux armements nucléaires. L'Iran, traité au contraire avec brutalité, s'est rapproché encore un peu plus du seuil nucléaire militaire. Maduro tient le Venezuela sous une poigne de fer. La Russie et l'Iran ont considérablement accru leur influence au Moyen-Orient à la faveur du retrait américain et de l'abandon par Washington de ses alliés. Dans ces conditions, que peut Joe Biden pour réparer les pots cassés? Comment les États-Unis peuvent-ils encore prétendre répandre la démocratie après avoir offert au monde le spectacle d'une attaque du Congrès? Demande Emma Ashford dans Foreign Policy. Et dans Foreign Affairs, James Goldgeier et Bruce Gentleson appellent carrément le président Biden à renoncer à son projet de réunir à Washington un sommet de la démocratie. Commencez par réparer la démocratie américaine avant de prétendre donner des leçons aux autres, écrivent-ils. Rien ne serait plus désastreux, au contraire selon Thomas Wright du think tank Brookings. Réparer la démocratie aux USA n'est pas incompatible avec le fait de la défendre à l'étranger, dit-il. Les deux se renforcent mutuellement. En outre, le Trumpisme fait partie d'un mouvement national-populiste mondial. Il bénéficie des réseaux de la corruption et de la désinformation internationaux. Le combattre sur le sol même des États-Unis implique précisément de s'attaquer aussi à ces réseaux. La plupart des défis que menacent les démocraties, poursuit Thomas Wright, ne peuvent être relevés que sur une base collective, avec l'aide des alliés dont les idéaux et les intérêts sont les mêmes que ceux des États-Unis. Au contraire, il faudra être intraitable à l'avenir avec ceux des alliés qui se moquent des droits de l'homme, comme l'Arabie Saoudite. Au lendemain de l'insurrection des Trumpistes sur le Capitole, l'ambassade de Chine à Pékin a tweeté de manière délibérément provocatrice sur la stérilisation forcée des femmes ouïghours. Une manière de montrer qu'il est loisible à la Chine de pousser toujours plus loin les limites de l'acceptable, vu l'état de déréliction morale de Washington. Oui, décidément, la mission que l'histoire confie à Joe Biden est écrasante.
Eh bien, on verra s'il est à la hauteur. Merci beaucoup, en tout cas, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, mais également sur l'application Radio France. On vous retrouve demain, cher Brice, et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.